sais pas, mon chéri. C'est toi qui décideras.
J'ai toujours préféré le train des marchandises.
Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à s'entasser dans le même wagon? Moi, croire que tout le monde aime la même chose.
C'est l'empathie.
Et il y en a pour toutes les sensibilités.
C'est quoi l'empathie?
L'empathie. Pour le grand Robert, l'empathie est la capacité de s'identifier à autrui et de ressentir ce qu'il ressent. Pour Weed le Cher, c'est le processus de copenser qui permet de réaliser un effet d'empathie grâce à des mécanismes d'identification et d'inférence. Pour Lebovici, l'empathie serait un processus affectif préverbal, comme l'empathie mère-bébé. Et pour Freud, l'empathie relève d'un ensemble énergique ou économique où la relation à l'autre est envisagée dans le but de décharge énergétique. On se mettrait à la place de l'autre tout simplement pour faciliter cette démarche.
Ah, oh, oh. L'écologie, c'est de l'empathie?
En quelque sorte, mais c'est aussi de la logique.
Vous avez entendu, Georges?
J'ai entendu.
En voiture, s'il vous plaît, en voiture, attention au départ!
C'est les allumeurs de réverbères.
Au sommaire ce mois-ci, dans les allumeurs de réverbères, nous commencerons par un conte de Tahiti de Émile-Louis Dufour, édité aux éditions Pacifique au Vent des Îles en 2014, intitulé « La fin des dieux ». Cet instant sera suivi par la rubrique « Texte historique ». Nous y entendrons un extrait de « Rejoignez-nous » de Greta Thunberg, écrit en 2018. Viendra ensuite la rubrique « Environnement » avec une toute nouvelle formule, composée d'un extrait de science-fiction pour imaginer les multitudes d'avenir qui s'annoncent à nous, une prise de parole d'un activiste écologiste d'aujourd'hui et la recette d'un éco-geste réputé économique, efficace et écologique. Autant dire que les astuces de Jonathan Conti ont été très inspirantes. Et pour clore l'émission, l'instant code du travail et convention collective, pendant lequel nous parlerons dialogue social. À tous, chers auditeurs, recevez ce vœu, force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine. Bonne lumière à tous. Allez hop, c'est parti. Vous écoutez les allumeurs de réverbères.
Les allumeurs de réverbères vous présentent l'instant qui compte.
Ready for you guys to take one moment look at the overhead windows on Discovery.
Okay, Ronnie.
Les allumeurs de réverbères.
La fin des dieux. Histoire et légende des temps anciens de Tahiti et des îles. Par Émile-Louis Dufour. La fin des dieux. Moéani et Amo s'aimaient. Ils vivaient tranquilles dans leur petit faré. Ils s'aimaient et cela était bien. Sauf que Tumunui, petit dieu de la nuit, était amoureux de Moéani. Caché dans son invisibilité, il la guettait, qui allait et venait, prenait soin de sa maison, préparait les repas, tressait des couronnes de fleurs pour Amo. Préparer l'écorce pour le tapas, chanter et danser de bonheur. Profitant que Amo était parti à la pêche ou à la récolte, il prit l'apparence d'un beau jeune homme athlétique, portant la ceinture rouge des grands chefs pour la séduire. Mais rien n'y fit. Ni la belle prestance, ni la voix chaude, ni les parures de coquillages et de plumes, ni les monoïs les plus doux, ni les péouées les plus finement tressées et parfumées, ni les tapas les plus légers et même les fruits les plus rares et les poissons les plus extraordinaires, rien ne tentait Moéani. Avec grâce, avec douceur, mais aussi avec détermination, elle refusait tout. Seul Amo comptait. Rien d'autre n'avait d'importance. Des jours durant, Tumunui, déploya tous ses efforts, mais la belle refusait toujours. Si bien qu'il se mit en colère et voulut la forcer. Elle se débattit, lui échappa et se mit à courir droit devant elle en appelant Amo à son secours. Hélas, elle glissa, elle tomba, son front se cassa sur une pierre. Elle mourut. Et le vent dispersa au loin le dernier souffle du bel amour du pauvre Amo. Tumunui enferma l'âme de la jeune fille dans une feuille de bananier et demanda une réunion des dieux. Car cette femme, il la voulait avec lui, dans le pays de ténèbres où les dieux aiment vivre. Debout sur le récif, le filet sur le bras, Amo attend le flux qui va pousser les pas aérés, les carangues, dans l'étroit chenal de corail. C'est alors que dans le vacarme des vagues et du vent, et malgré la distance du rivage au récif, il entend la voix de Moéani qui l'appelle. Moéani qui a peur et qui pleure. Aussitôt, abandonnant sa pêche, mu par l'angoisse, il regagne le rivage et court vers sa maison. Mais ce n'est plus sa maison. La maison du bonheur avec Moéani, plus un chant d'oiseau. Plus un frémissement d'air, plus un grésillement d'insectes. Tout est immobile, figé, mort. Amo y entre sans bruit. Là, dans une obscurité que même la lumière du soleil ne peut déchirer, les dieux sont là, venus à l'appel de Tumunui. Assis en rond, ils se passent de main en main l'âme de Moéani, toujours enfermé dans la feuille de bananier. Trompé par l'obscurité, un des dieux, prenant Amo pour l'un d'eux, lui tend le précieux paquet. À toutes jambes, Amo court. Il entend des grognements derrière lui. Il sent des souffles rauques sur sa nuque, des glissements dans son dos, mais il court encore plus vite. C'est Moéani qu'il tient contre sa poitrine, et cela lui donne une force surhumaine. Il arrive au Marae, où le vieux prêtre l'écoute. Vite, il faut retrouver le corps de Moéani. Les jeunes gens du village la retrouvent et la ramènent sur une civière. Hélas, la chaleur a fait son œuvre et le corps se décompose déjà. Malgré cela, le prêtre prend solidement l'âme et tente de la remettre dans le corps en la faisant passer sous l'ongle du gros orteil. L'âme ne veut pas réintégrer le corps. Elle se débat. Elle essaie de s'échapper, mais le prêtre tient bon. Enfin, elle cède, elle entre. Et les organes se remettent à fonctionner. Le sang circule, le cœur bat. La peau redevient douce, le visage retrouve son harmonie et Moéani ouvre les yeux et voit Amo. Et voilà Moéani qui pleure et qui rit et qui ne veut plus lâcher Amo. On raconte que, pour soustraire le jeune couple au harcèlement de Tumunui, le prêtre les conduisit lui-même à Matavai, où on annonçait un dieu Piritan qui protège des dieux anciens. Et là, Moéani et Amo ne furent plus jamais importunés. Quant au vieux prêtre du dieu Oro, on raconte qu'il a brûlé tous les tiis anciens pour embrasser la nouvelle religion où les hommes ne sont plus esclaves des dieux.
Allumeurs de réverbères.
Cet instant de relaxation.
réverbère.
Les discours politiques!
Mais tu vas arrêter de crier, s'il te plaît.
Bah, tout le monde crie, maman, maintenant.
Il a pas tort.
Il a même raison.
Bah oui, c'est la mode.
C'est la mode.
Mais non, qu'est-ce que vous racontez? Il y a encore des gens qui savent parler normalement.
Où?
Venez voir, ils sont par là. On les appelle les constructeurs, les terrestres, les bons vivants.
Idéalistes,
réalistes, positifs.
Aventuriers? Des résistants, avec un grand R.
Oh. Et qu'est-ce qu'ils font?
Ils s'occupent des autres.
Wow.
Allez, c'est parti, mes petits loups. C'est la pause campagne, on prend un grand bol d'air frais.
Les allumeurs de réverbères.
Rejoignez-nous, hashtag grève pour le climat, de Greta Thunberg, traduit par Flore Vasseur. Dans certains endroits du monde, comme à Davos, les gens aiment se raconter des histoires de réussite. Mais leur réussite financière a un prix inimaginable. À propos du changement climatique, nous devons admettre que nous avons échoué sur toute la ligne. Tous les mouvements politiques, dans leur forme actuelle, ont échoué. Tous les médias ont échoué à alerter le grand public. Mais les Homo sapiens n'ont pas encore échoué. Oui, nous sommes en train d'échouer, mais il est encore temps d'inverser le cours des choses. Nous pouvons encore résoudre le problème. Tout est encore entre nos mains. Seulement, à moins de reconnaître l'échec généralisé de nos systèmes actuels, nous n'avons aucune chance. Nous sommes face à un désastre de souffrance inimaginable pour d'immenses parties de la population. Et ce n'est plus le moment de parler poliment ou de réfléchir à ce qui peut être dit ou pas. C'est le moment de parler franchement. Résoudre la crise climatique est le défi le plus complexe et le plus ambitieux que les Homo sapiens ont eu à affronter. La solution principale est pourtant si simple que même un enfant pourrait la comprendre. Il faut arrêter nos émissions carbone. À nous de le faire ou pas. Vous dites que rien dans la vie n'est jamais blanc ou noir, mais c'est un mensonge. Un mensonge très dangereux. Soit nous parvenons à éviter un réchauffement de 1,5 degré, soit non. Soit nous parvenons à éviter de déclencher cette réaction en chaîne irréversible et hors de tout contrôle humain, soit non. Soit nous choisissons de rester une civilisation, soit non. Nous avons tous le choix. Nous pouvons mener des actions qui garantiront le changement et protégeront les conditions de vie des générations futures. Où nous pouvons poursuivre le cours de nos vies comme si de rien n'était, et échouer. Cela dépend de vous et moi. Certains disent que nous ne devrions pas devenir des activistes, que nous devrions laisser cela à nos politiques et voter pour qu'ils changent. Mais que faire au juste quand il n'y a aucune volonté politique? Que faire quand les actions politiques dont nous avons besoin n'existent pas? À Davos, comme partout ailleurs, les gens ne parlent que d'argent. Comme si l'argent et la croissance étaient leurs uniques préoccupations. Et puisque la crise du climat est une crise qui n'a jamais été traitée comme telle, les gens ne sont tout simplement pas au courant de ses conséquences sur leur vie de tous les jours.
Les allumeurs de réverbères.
La rubrique environnement.
Les allumeurs de réverbères.
Une fiction, une parole et un éco-geste.
for the world, ha ha. For the world, ha ha, ha ha, for the world, ha ha.
Devenir jardinier, de Alexis Génie, prix Goncourt 2011. Extrait du recueil « Au bout de nos rêves », le retour des utopies.
C'est vivant ? Demanda le jeune homme d'une voix altérée. Le maître jardinier sentit dans cette musique, si malléable qu'est la voix, la déformation que lui infligeait tout autant l'inquiétude que la soif. La soif inquiète de savoir. Mais c'était pour cela que le jeune homme suivait le maître. Savoir. Il lui posa une main rassurante sur l'épaule. Une main brunie, lourde et râpeuse, qui par simple contact rassurait et enseignait. Il était le maître jardinier. Il enseignait en touchant. Vivant, oui, comme tout ce qui importe. Comme tout ce qui tient, comme tout ce qui se développe, évolue et se perpétue. Alors oui, vivant comme tout ce qui vaut. Le reste n'est que cailloux et poussière où nous ne pourrions vivre. Mais c'est une ville. Et c'est pour cela qu'elle prospère en étant vivante. Et pour cela qu'elle nous a appelés. Ils avaient passé le col et ensuite la route redescendait en lacets, disparaissait dans la forêt, réapparaissait comme une rivière entraînée par la pente et atteignait la cité, cette vaste marée de toits, de rues, de tours et de jardins qui, de loin, apparaissait comme un seul objet, une seule masse de béton blanc et de tuiles posées sur la plaine quadrillée de champs et de routes. Et cette masse, traversée d'un large fleuve, apparaissait de loin bouger, respirer, changer lentement de couleur selon un rythme paresseux et complexe, assez difficile à saisir mais que l'on sentait spontanément comme rythme et donc comme vivant, parce que le vivant reconnaît toujours immédiatement le vivant, sans qu'il ait à l'apprendre. Viens maintenant. Ils remontèrent dans la voiture ultra-légère pour atteindre la grande cité qui les attendait en s'étirant sous le soleil du matin. Le petit véhicule trottinait à son rythme. La capote captatrice ne fournissait pas plus d'énergie que nécessaire, heureusement. Le fin voile de carbone nervuré comme le sont les pales les enveloppait d'une ombre douce tout en étant d'une solidité à toute épreuve. Minimum de matière et maximum de résistance, avait murmuré le maître. Et le jeune homme l'avait noté comme un principe. Et pas plus vite que nécessaire, cela donne le temps de penser, de parler et de réfléchir avant d'arriver. Le jeune homme avait également noté. Il notait tout. Il était avide de savoir pourquoi le maître était maître. Parce que je suis jardinier, répondit-il avec un léger sourire avant que le jeune homme ait pu poser la question. John Palais, 2020. Propos recueillis par Hervé Kampf et Émilie Massemain. Présente dans le recueil « L'écologie du XXIe siècle » présenté par Hervé Kampf. J'ai grandi à la campagne. Je me suis toujours sentie bien au contact de la nature. À l'école primaire, j'avais le cahier Panini du WWF avec des autocollants d'animaux, les mammifères, les oiseaux et les animaux disparus, comme le dodo. C'est la première fois où je me suis dit qu'on faisait disparaître des espèces animales. Il y a aussi eu Tchernobyl, en 1786. J'avais 7 ans. Ma mère m'a dit que ce jour-là, je me promenais tout nu sur la plage. Personne n'avait été informé que le nuage radioactif passait. Dès les années 1980, les alertes étaient très fortes, même si l'écologie était marginalisée. On parlait du trou dans la couche d'ozone, de la déforestation, de pollution toxique, des signaux largement suffisants pour interroger notre mode de vie et la trajectoire qu'on prenait. À l'école, pas tellement. En famille, je n'ai pas de souvenirs particuliers. C'est venu par les médias. Quand on est sensible à cette question, il suffit d'avoir une alerte pour la prendre au sérieux. J'ai toujours eu un sentiment de gravité prononcée. Dès le départ, j'avais le sentiment de quelque chose d'irrémédiable. Une forêt millénaire qu'on coupe, les disparitions d'espèces. C'est irrémédiable. L'écologie apparaissait comme quelque chose de marginal. Pour moi, une des premières images de l'alerte écologique a été Greenpeace, dans les années 1990. Les écolos de Greenpeace étaient marginalisés. Et enfin, pour conclure cette nouvelle rubrique environnement, avant le retour du Jardin d'Anne-Laure à la saison prochaine, la recette éco-geste pour vous et pour faire plaisir à vos proches. La recette du baume à lèvres et à main, un cadeau de Noël original. Dans un contenant résistant à la chaleur, un pot en verre par exemple, mettez une cuillère à soupe d'huile de coco et une cuillère à soupe de cire d'abeille. Préparez un bain-marie, une casserole avec de l'eau chaude, pour y déposer le pot qui s'y baignera à mi-hauteur et laisser fondre l'huile de coco et la cire d'abeille dans le pot qui se trouve dans le bain-marie. Une fois fondu, versez le mélange coco-cire d'abeille dans un petit contenant, si possible esthétique celui-ci, lui aussi résistant à la chaleur. Le mieux est de choisir un petit pot à mettre dans la poche. Mais avant de le mettre dans la poche, gardez le pot dans lequel vous avez versé le liquide cire d'abeille coco sur un plan de travail ou au frigo et laissez durcir. Quand le mélange est bien refroidi et figé, c'est prêt. Vous venez de réaliser un baume à lèvres et à main très efficace, économique et écologique qui peut aussi être un très joli cadeau de Noël.
Les allumeurs de Réverbère vous présentent l'instant code du travail et convention collective.
C'est les allumeurs de Réverbère.
Dialogue social. Version en vigueur au 25 novembre 2024. Article L1. Tout projet de réforme envisagé par le gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation. À cet effet, le gouvernement leur communique un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options. Lorsqu'elles font connaître leurs intentions d'engager une telle négociation, les organisations indiquent également au gouvernement le délai qu'elles estiment nécessaire pour conduire la négociation. Le présent article n'est pas applicable en cas d'urgence. Lorsque le gouvernement décide de mettre en œuvre un projet de réforme en l'absence de procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux organisations mentionnées au premier alinéa en la motivant dans un document qu'il transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence. Article L2. Le gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ défini par l'article L1 au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation à la Commission nationale de la négociation collective de l'emploi et de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L2271-1. conformément au 2 de l'article 148 de la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du 6e mois qui suit celui de la publication de la précédente loi. Article L3. Chaque année, les orientations de la politique du gouvernement dans les domaines des relations individuelles et collectives du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le calendrier envisagé pour leur mise en œuvre, sont présentées pour l'année à venir devant la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. Les organisations mentionnées à l'article L1 présentent pour leur part l'état d'avancement des négociations interprofessionnelles en cours ainsi que le calendrier de celles qu'elles entendent mener ou engager dans l'année à venir. Le compte-rendu des débats est publié. Chaque année, le gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de toutes les procédures de concertation et de consultation mises en œuvre pendant l'année écoulée en application des articles L1 et L2, des différents domaines dans lesquels ces procédures sont intervenues et des différentes phases de ces procédures. Conformément au 2 de l'article 148 de la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du 6e mois qui suit celui de la publication de la présente loi. Pour plus d'informations, rendez-vous au chapitre préliminaire de la partie législative du Code du travail.
C'est beau ça, maman, hein ?
Oh oui, une belle avancée.
On appelle ça le progrès.
Et comme disait Monsieur Ambroise Croizat, le progrès est une création continue.
Nous arrivons au terme de cette émission. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Allumeurs de Réverbère. D'ici là, vous pouvez réécouter les épisodes précédents sur le site internet allumeurs-de-reverbère.fr, sur le site de l'autre radio ou sur les réseaux sociaux. Cette émission a été réalisée par Myriam Samour, habillage musical, Chaban Musique. Nous vous souhaitons force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine.